100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les gangsters et les djihadistes qui opèrent en Europe achètent-ils leurs armes dans les Balkans? Le point d'interrogation n'est plus vraiment de mise depuis que les enquêteurs ont trouvé qu'une partie des armes ayant servi aux attentats de 2015 à Paris provenaient bien de la région. 20 ans après la fin de la guerre dans les Balkans, les armes héritées du conflit continuent à circuler sans que l'État arrive à les contrôler et on ne parle même pas des simples citoyens qui conservent un fusil dans le fond de leur jardin. C'est le reportage à Sarajevo de Mercia Nezic.
C'est un secret de polichinelle. En Bosnie, dans toutes les familles, on sait où sont cachées les armes et elles sont le plus souvent enterrées dans le jardin, comme nous l'explique Alexandra, une cadre d'une trentaine d'années de Sarajevo, la capitale.
Les armes, elles sont dans les maisons, dans les greniers, enterrées quelque part, planquées chez les voisins parfois. Chacun s'est débrouillé en fait. Les gens ont peur. Si la guerre recommence, ils veulent être prêts.
La guerre, elle s'est terminée en 1995 en Bosnie et en 1999 au Kosovo. Pourtant, plus de 20 ans après, des armes héritées du conflit sont détenues illégalement par beaucoup de simples foyers balkaniques. Elles circulent encore dans la région, mais sont impossibles à quantifier. Il s'agit surtout d'armes automatiques et d'explosifs. Et c'est l'un des problèmes, car elles risquent de se retrouver entre les mains des trafiquants, comme nous l'explique Dragan Mektić, le ministre bosnien de la Défense.
Bien sûr, les trafiquants savent que ces armes sont entre les mains des citoyens et ils font de plus en plus pression pour se les approprier. Il faut voir ce que nous pouvons faire ici en Bosnie pour que ces armes détenues illégalement par des groupes ou des individus repassent sous le contrôle de l'État. Ce sera une façon de porter un coup au trafic d'armes. Il faudra se débrouiller pour que les citoyens nous remettent ces armes volontairement. Il faudra sans doute les racheter. Vous voyez, si un trafiquant se présente pour racheter un fusil automatique à 150 €, il faut que le citoyen comprenne qu'il ferait mieux de le vendre à l'État pour 100 €. Cela, il ne devrait pas en répondre devant la justice.
Après la guerre, les autorités ont organisé plusieurs opérations pour collecter ces armes. Visiblement, elles ont échoué. Si les Bosniens refusent de les rendre parce qu'ils ont peur, aucune chance de leur faire lâcher prise, estime ce professeur de criminologie de Sarajevo, Yasmin Aic.
Détenir des armes dans les Balkans, c'est hélas perçu comme le seul moyen de défense efficace, après tous les traumatismes, les tragédies, le génocide qui s'est déroulé en Bosnie. C'est à cause de tout ça que les gens veulent garder ces armes, et rien ne pourrait les persuader de faire le contraire, surtout quand vous regardez la situation encore très tendue dans les Balkans.
Une situation tendue qui profite à certains, les gangsters balkaniques acheminent les armes en Europe occidentale notamment. Ils fournissent le grand banditisme, mais aussi les djihadistes. Une partie des armes utilisées dans les attentats à Paris en 2015 provient des Balkans. Les autorités locales sont embarrassées. Dragan Mektić, ministre de la Défense.
On lutte contre le trafic d'armes, pas seulement en Bosnie, mais dans tous les pays des Balkans occidentaux en coopération avec les États de l'Europe occidentale, surtout avec la police française. Il existe des filières de trafic organisées vers la France. Nous en avons démantelé.
Même si des filières sont démantelées et des armes saisies régulièrement, les autorités françaises s'inquiètent. Elles veulent venir à bout de ces organisations criminelles qui vendent des armes à des djihadistes. Paris cherche à renforcer la coopération avec les pays balkaniques pour lutter contre ce trafic. La semaine dernière, la France a organisé un séminaire à ce sujet à Sarajevo. Il a réuni des experts, des magistrats et des policiers de toute la région. Il s'agit notamment de renforcer la coopération en termes d'échanges de renseignements. Le trafic d'armes en provenance des Balkans représente une menace pour toute l'Europe.
Wow! Bonjour, ma chère. Tu as bonne mine, Maïté. Comme cela était l'île, la mer, la plage. Formidable, Maria. Comme un rêve.
Le couple franco-allemand comme moteur de la relance européenne. Le nouveau président français y croit plus que tout. Lui qui a réservé à Berlin et à Angela Merkel son premier voyage à l'étranger. L'occasion de redire à quel point l'apprentissage du français et de l'allemand de chaque côté de la frontière est indispensable. Les classes bilingues seront d'ailleurs rétablies dès la rentrée prochaine. Un projet que poursuit depuis plus de 50 ans l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. 12 jeunes français ont ainsi sillonné pendant toute l'année l'Allemagne pour montrer dans les écoles une facette amusante de l'apprentissage du français. À Munich, Pauline Curté a assisté à l'une des séances de France Mobile.
J'aime plus Paris.
C'est une compétition où il n'y a rien à gagner, mais là n'est pas l'essentiel. Divisée en deux équipes, Sarah, Zema, Maria et leurs dizaines d'autres camarades de l'école municipale pour filles de Munich doivent écouter des chansons françaises, identifier au plus vite le nom d'une ville dans les paroles et les situer sur une carte. L'équipe la plus rapide l'emporte. Ce jeu n'est que l'une des nombreuses activités proposées par Amélie Gem, animatrice de France Mobile dans le sud de la Bavière, pour montrer aux jeunes Allemands que le français peut être amusant. Visiblement, cela fonctionne. Il suffit d'écouter Sarah, 13 ans, à la fin de la séance.
Je me suis vraiment amusée et j'ai beaucoup appris parce qu'on nous a montré un autre aspect de la France. Le jeu des villes et des chansons était bien et j'ai aussi vraiment aimé celui de l'alphabet.
Pour le jeu de l'alphabet, les élèves, toujours en équipe, doivent courir à tour de rôle au tableau pour écrire un mot en français correspondant à chacune des lettres de l'alphabet. Elles étudient le français depuis 2 ans, mais pour elles, le W reste toujours plus difficile à remplir que le B ou le C. Une fois l'exercice terminé, Amélie Gem leur propose d'écrire un poème à partir des mots qu'elles ont trouvés.
Munich, c'est magnifique. Tu as une question. Bonjour tout le monde. Oui et non, c'est d'accord. J'ai faim, nous mangeons des gâteaux. Je t'invite pour la fête avec moi. Allez chez toi.
Ouais.
Au bout de la séance d'une heure et demie, plusieurs élèves se sentent plus en confiance pour parler le français et veulent le montrer.
Je m'appelle Shehad et j'ai 14 ans. Et j'aime les français.
Je vous donne François, la grenouille.
Aujourd'hui, Amélie Gem est satisfaite de sa séance. Les élèves ont beaucoup participé et se sont amusés. La jeune femme âgée de 25 ans qui visite 3 écoles par semaine depuis septembre dernier et jusqu'à la fin de l'année scolaire a gagné en expérience. Elle sait ce qui plaît aux ados.
Moi j'aime bien faire des jeux que j'appelle un peu blind test où je présente des artistes, chanteurs français, francophones et ensuite je leur présente des titres de chansons et quand ils écoutent la musique ils doivent retrouver le titre de la chanson. Donc c'est vraiment juste de l'écoute en fait, compréhension orale. Puis au début je me présente toujours, voilà, pour aussi créer le lien avec les jeunes, expliquer d'où je viens. Et à la fin je leur laisse du temps aussi pour me poser des questions. Les questions qui reviennent souvent, c'est les questions par rapport à la nourriture. Est-ce que vous avez déjà mangé des grenouilles? Est-ce que vous avez déjà mangé des escargots pour de vrai?
Je viens de Clermont-Ferrand.
En plus de poser des questions sur la France, Elia, 15 ans, a aimé échanger en français avec l'animatrice.
Dès le début, elle a parlé français. J'ai trouvé ça bien parce qu'on a dû tout de suite se concentrer sur ce qu'elle disait. Et elle parlait vite, comme les vrais français. Alors, ça nous a donné une impression de ce qu'on pouvait comprendre ou ne pas comprendre.
Et tu as tout compris ?
Non, pas vraiment. Les 2/3, on va dire.
À la fin de l'année scolaire, en Bavière, fin juillet, Amélie Gem passera le relais à un nouveau jeune français. Et celle qui a arpenté les routes bavaroises au volant d'une camionnette pendant 1 an a déjà un conseil à lui donner.
Ne pas écouter le GPS. Parfois, il propose des raccourcis très étranges. Il m'a déjà emmené, par exemple, dans un champ. Et c'est grâce à des gentils paysans bavarois qui ont tiré la voiture avec leur tracteur. Donc, le conseil, ne pas toujours écouter le GPS.
Et le conseil vaut aussi aux intervenants du projet Miroir de France Mobile. En France, le projet mobile classeux, également organisé par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, lance 14 jeunes Allemands sur les routes qui, eux, doivent sensibiliser les ados français à la langue de Goethe.
Österreichs Außenminister Sebastian Kurz spricht sich angesichts der Querelen in der Regierung für eine Auflösung der Koalition mit der SPÖ und vorgezogene Parlamentswahlen aus.
Ich persönlich
Il est jeune, conservateur et a gravi à une vitesse vertigineuse les marches du pouvoir. Le nouveau chef du parti autrichien EVP, Sébastien Kurz, tout juste 30 ans, conduira la campagne de son parti pour les législatives d'octobre prochain. Portrait d'un ambitieux signé Céline Béal.
Le quotidien Salzburger Nachrichten n'a pas hésité à l'appeler le Messie noir de la couleur de sa formation. Et ce n'est pas le seul média autrichien à relever de cette manière les amples espoirs que fonde le parti conservateur ÖVP sur son nouveau chef. À seulement 30 ans, Sébastien Kurz était déjà ministre des Affaires étrangères, après une ascension politique express qui ne lui a même pas laissé le temps d'achever ses études de droit. À ce poste, il s'est fait connaître en Europe en organisant la fermeture de la route des Balkans début 2016. En Autriche, sa ligne dure quant à l'accueil des réfugiés, à laquelle a fini par se rallier le reste du gouvernement, ainsi que ses critiques envers le régime au pouvoir en Turquie, lui ont valu un succès stable dans les sondages. C'est donc tout naturellement que sa formation, en perte de vitesse depuis des années, s'en est remise à lui pour mener la campagne des législatives anticipées. Sébastien Kurz a accepté, non sans condition. Les caciques des fédérations régionales devront lui laisser le champ libre pour nommer les candidats à la tête d'une liste ouverte à la société civile. Avec cette image dépoussiérée, l'ÖVP semble, contre toute attente, en position de rester au prochain gouvernement. Et pour Sébastien Kurz, la chancellerie ne semble plus inimaginable.
Mais qu'a bien pu faire l'Europe pour nous ?
Spécialiste de l'Europe tout autant que pro-européen convaincu, le journaliste Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles du journal Libération, signe un livre au titre gentiment provocateur, « Les salauds de l'Europe ». Pour répondre au discours eurosceptique, quoi de mieux que d'écouter attentivement les arguments pour mieux les déconstruire ? Démonstration avec l'auteur, interrogé par Catherine Roland.
Les eurosceptiques et les europhobes s'appuient en partie sur des vérités et très souvent sur des mensonges. Donc j'essaye de dire donc que leurs critiques apparaissent a priori fondées, mais ne sont pas fondées au regard de l'histoire. Parce que si l'Europe est mal fichue comme elle l'est aujourd'hui, c'est que ça obéit à des raisons historiques. On a commencé à 6 pays en 1950, donc on négocie de la souveraineté, et c'est pas simple de partager volontairement sa souveraineté. Donc on trouve des compromis.
Mais oui, vous expliquez bien, c'est qu'il y a une histoire de l'Union européenne qui commence d'ailleurs dans les années 30, même avant la guerre, et ce sont les Anglais, notamment, qui ont eu cette idée-là incroyable, et puis que c'est une construction après la guerre pour que le continent, en fait, retrouve la paix, une paix définitive.
La paix a été permise par la présence américaine, mais elle a été consolidée par l'Europe. Vous savez, ce fameux reproche qu'on fait sans arrêt aujourd'hui, les eurosceptiques font à l'Europe en disant « Ben non, l'Europe, c'est pas la paix, c'est la présence américaine. » Si la présence américaine garantissait la paix, en Afghanistan, ils boiraient du lait, il y aurait des violons un peu partout. Donc il faut quand même arrêter de croire qu'une présence militaire garantit la paix. Non, la paix, c'est nous qui l'avons consolidée parce que le continent européen, en 1945, était à genoux. On avait poussé jusqu'au bout l'absurdité du souverainisme, la violence que peuvent produire les États-nations, et c'est à ce moment-là que quelques hommes ont compris qu'il fallait commencer à bâtir l'Europe.
Justement, c'est une des critiques, c'est qu'on dit que l'Europe s'est faite dans le dos des peuples. Monnet, Schuman, Spaak, côté belge, qui ont décidé du traité de Rome, seuls.
Oui, c'est vrai. Mais vous vous rappelez la France, comment elle a été faite? Vous croyez qu'il y a eu des grands référendums au moment où on a annexé la Lorraine? Moi, je suis lorrain, donc les troupes de Louis XV sont entrées en Lorraine joyeusement. Vous croyez que la foule en liesse accueillir l'armée française? Je ne connais aucun État dans le monde qui se soit constitué à la suite d'un référendum. Aucun. Et l'Europe, c'est extraordinaire. On a réussi à faire une alliance géopolitique sans violence. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait ça. C'est pour ça qu'il faut être fier de l'Europe.
Alors là, je vais reprendre un autre argument des eurosceptiques. Certes, on a réussi à faire une Europe économique, mais pas politique. Et là, ils vont vous rétorquer. Au départ, il y avait une idée politique de l'Europe et finalement, ça a été dévoyé et on se retrouve avec un immense marché commun et douanier.
La première question qu'il faut se poser, c'est au fond, qui contrôle l'Europe ? On a l'impression que c'est la Commission à Bruxelles qui contrôle l'Union européenne. Non, ce sont les États. Si les États voulaient demain faire une armée européenne, il y aurait une armée européenne. Si on avait voulu contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne, on aurait eu depuis très longtemps des gardes-frontières européens qui seraient déployés à nos frontières. C'est vraiment, les États ne veulent pas. La Commission, au mieux, ne fait que proposer.
Et oui, à travers le Conseil de l'Europe, et le Conseil européen des chefs d'État, voilà, et qui est à 80% de droite.
Aujourd'hui, l'Union européenne, les 500 millions d'Européens, sont massivement de droite. Quand j'entends aujourd'hui une partie de la gauche critiquer cette Europe de droite, ça m'amuse parce que est-ce que la France est un État de gauche? Non. Si on voulait avoir une Europe de gauche, il faudrait constituer un État fédéral avec des compétences totalement fédérales et les gens pourraient voter pour un gouvernement de droite, une majorité de droite dans leur État et ensuite élire au niveau fédéral une majorité de gauche. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Même les eurodéputés sont désignés par les partis politiques nationaux. Donc ce sont forcément des gens qui cherchent à ne pas déplaire à leur État d'origine s'ils veulent avoir une carrière ou être reconduits sur la liste. C'est-à-dire nos incompétents nationaux qu'on doit recaser au niveau européen.
Alors ça, justement, c'est pas forcément le cas dans tous les pays. C'est-à-dire que les eurodéputés sont assez bien considérés dans d'autres pays européens.
L'exemple de cette grande considération qu'on peut porter à des élus européens, c'est l'Allemagne, évidemment. En Allemagne, les choses sont simples. Dans les partis politiques nationaux, on demande à un jeune qui veut commencer sa carrière politique, enfin un jeune ou un moins jeune, quel type de carrière il choisit. S'il choisit une carrière européenne, il s'engage à accomplir au minimum 3 mandats de 5 ans à Bruxelles et à Strasbourg. C'est pas des gens qui ont perdu des scrutins nationaux et qui viennent gagner leur pitance pendant 5 ans comme on le voit en France. Donc c'est des gens qui font leur carrière, qui s'investissent. Et donc c'est pour ça que l'Allemagne pèse énormément en Europe. Regardez aujourd'hui en Allemagne, qui est le candidat à la chancellerie des sociaux-démocrates? C'est Martin Schulz. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un libraire dans une petite ville de l'Allemagne, qui est devenu président du Parlement européen et aujourd'hui, il représente le SPD et il a une bonne chance d'être élu.
Dans quelques mois, il y aura des eurodéputés de moins, les Britanniques. Alors les eurosceptiques là aussi mettent en avant le Brexit en disant, voyez, un pays comme l'Angleterre peut sortir de l'Union européenne.
Moi, j'adore le Brexit parce que le Brexit, à mon avis, ça casse l'argument des eurosceptiques et des europhobes. Pourquoi? Parce que un des grands trucs qu'on entend, la bêtise monumentale, c'est de dire à l'Union européenne, c'est l'URSS. En fait, c'est l'Union soviétique. C'est la prison des peuples. Non. La preuve, regardez, vous avez un État qui a décidé de partir. On le laisse partir. Alors aujourd'hui, on entend le Front national dire regardez, la catastrophe du Brexit n'a pas eu lieu. Oui, mais je rappelle, le Brexit n'a pas eu lieu. Le Brexit interviendra le 31 mars 2019 à minuit, pas avant. D'ailleurs, on voit bien la presse eurosceptique, par exemple, qui commence à hurler parce que les agences européennes sont en train de partir. L'agence européenne du médicament, l'agence bancaire européenne qui s'en va. Et les eurosceptiques hurlent, de l'emploi disparaît. Et oui, de l'emploi va disparaître.
Les salauds de l'Europe de Jean Quatremer est publié aux éditions Kalman-Lévy.
Si un Dieu adieu, vull que el dia sigui net i clar.
Les Espagnols connaissaient l'artiste et ses chansons contre le franquisme et pour la Catalogne. Mais aujourd'hui, Luis Llach revient avec une autre casquette, militant de la cause indépendantiste, quitte à oublier quelques idéaux en route, son portrait signé François Musso.
Avec son sempiternel bonnet de laine noire sur la tête, on voit bien qu'il n'est pas un député comme un autre au sein du Parlement de Catalogne. C'est Lluís Llach, un chanteur-compositeur-interprète et pas n'importe lequel. Une sorte de Jacques Brel, voire de Léo Ferré, à l'échelle de cette terre, la Catalogne, qui fait partie de l'Espagne, mais qui depuis des siècles se sent différente, comme une nation à part. Et cela, Lluís Llach le sent aussi, dans son cœur. Il avait composé et chanté les hymnes contre la dictature franquiste, notamment la chanson « Voyage vers l'Ithaque ». Puis, au sommet de sa gloire, il s'était réfugié dans un village de l'intérieur, avant de déménager vers le Sénégal, pour être tout à fait tranquille. Mais alors que les leaders séparatistes réclament à Madrid un référendum d'autodétermination, Lluís Llach a entendu l'appel du pays. Cette indépendance, il veut la construire en première ligne. Le voici désormais depuis des mois de retour à Barcelone, député régional et même président d'une commission qui prépare la déconnexion, en clair, la rupture avec l'Espagne. Récemment, il a expliqué aux fonctionnaires qui vivent et travaillent en Catalogne qu'une fois la loi de déconnexion votée, ils devront obéir non plus au pouvoir central à Madrid, mais aux autorités catalanes. Sinon, a-t-il dit d'un air mauvais, il y aura des représailles. Étrange expression dans la bouche d'un artiste ayant toute sa vie chanté la liberté. Il semble que dans son cas, la dictature franquiste a laissé des traces profondes.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.